Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus marche.
Jésus libère.
Jésus rétablit.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Notre méditation sera tirée de l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Évangile selon Luc, chapitre 10, le texte est un peu long, versets 25 à 42. Ça voudra dire que nous allons lire un petit peu vite pour que nous le terminions à temps. Luc, chapitre 10, versets 25 à 42, nous lisons ensemble. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa porte-monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même !» Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins de mystique, survint et dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider !» Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Chapitre 10 de Luc nous donne ce qu'un chrétien devrait faire dans le monde. Les 3 scènes de ce chapitre, nous allons le voir, illustrent donc les 3 volets du ministère de chaque chrétien qui croit en Jésus-Christ. Le premier volet de ce que le chrétien devait faire, c'est ce qui nous est décrit du verset 1 au verset 24. Nous en avons parlé dimanche passé. Il est dit au verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le premier volet de ce qu'un chrétien, c'est que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur, envoyés par lui, pour le représenter dans ce monde, là où lui-même devait aller. Je répète, c'est très important. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus, envoyés par lui pour le représenter dans ce monde, là où lui-même devait aller. Jésus envoie 70 de ses disciples. En dehors des 12, les chiffres dans la Bible sont une symbolique et ont une signification particulière. Le chiffre 70, un petit calcul simple, nous démontre que c'est un multiple de 7. Le chiffre 7, qui a une grande signification biblique, nous est donné dans la parole. En effet, pour créer le monde, Dieu a mis 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Il n'y a pas 8 jours, il n'y en a que 7. Et le texte de Genèse nous dit que lorsque Dieu a créé toute chose en 7, en 6 jours, tout ce que Dieu a créé était bon. Ils ont même parfait. Le chiffre 7 est un chiffre qui signifie que les choses sont complètes, terminées, que c'est parfait. 70, qui est le multiple de 7, nous amène aussi à comprendre que les 70 que Jésus a envoyés représentent la globalité, la totalité des croyants. En effet, le monde, nous dit la Bible, a été détruit par le déluge au temps de Noé. 7 personnes, sauf erreur, ont été sauvées. Noé, sa femme, 6 fils de Noé, leur femme, ça fait combien? 8 personnes. 8 personnes. Et puisque le monde entier a péri sous les eaux, avec le déluge, la Bible nous dit que la race humaine a été et sortie des 3 fils de Noé, qui sont Cam, Sem et Japheth. C'est à partir d'eux que toutes les races humaines sont sorties. Comment, je n'en sais rien. C'est-à-dire que Noé et sa femme, ils étaient une race, ils ont fait 3 enfants qui étaient la même race. Comment se fait-il que de ces 3, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs, je n'en sais rien. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Genèse, au chapitre 10, c'est lorsque l'on parle d'une nouvelle génération de la race humaine à partir des enfants de Noé, on nous parle des 70 petits-fils sortis de Noé qui ont peuplé toute la terre. Voici leur subdivision. De Japheth, 14. De Cam, 30. De Sem, 26. Au total, 70. Si vous faites un petit calcul au Genèse chapitre 10, vous allez trouver par la généalogie, par enfant, ces chiffres. 70. Donc ce n'est pas par hasard que Jésus envoie 70 autres disciples. Cela nous amène à croire, premièrement, que la bonne nouvelle du royaume doit être envoyée dans le monde entier, sur toute la race humaine. C'est pour cette raison, en ce temps-ci, je vous disais dimanche passé, l'Église de Dieu internationale est en train d'inventorier tous les peuples non atteints. pour que ces gens-là aient aussi la possibilité d'écouter l'Évangile. Ce n'est pas normal qu'une seule personne écoute deux fois l'Évangile quand il y en a qui n'ont jamais écouté une seule fois. Donc, l'Évangile doit être annoncé à toute la race humaine, à tous les peuples de la terre. C'est la première conclusion que nous tirons de l'envoi de ces 70 disciples. La deuxième leçon que nous tirons de l'envoi de ces 70, c'est que, puisque le chiffre 70, c'est le chiffre qui est complet, c'est que chaque croyant, quel que soit son âge, qu'il soit homme ou femme, quelle que soit sa race, là où il peut habiter, chaque croyant converti à Jésus-Christ est un disciple envoyé par Jésus-Christ. Donc, Dieu n'envoie pas seulement quelques élus, comme les 12, mais il envoie les 70, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants. Le verset 1 à 24 du chapitre 10 de Luc nous amène donc à conclure que comme chrétiens, nous sommes premièrement les ambassadeurs et tous, nouveaux convertis, anciens convertis, hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, tous ceux qui appartiennent à Jésus, nous sommes tous des ambassadeurs du Seigneur, envoyé par lui pour le représenter dans ce monde, là où lui-même devait aller. Ça veut dire, dans le travail que je fais, je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Suis-je étudiant? Je suis ambassadeur. C'est Jésus qui devait étudier à ma place, mais je suis là, à sa place. En fait, le principe d'ambassade, c'est tout simplement que il n'y a qu'un seul président pour un pays. Et si ce président et ce pays doit être représenté dans le monde entier, il lui est difficile de se couper en morceaux et d'aller partout. Ainsi, le président reste dans la capitale de son pays et il envoie des hommes ou des femmes qu'on appelle ambassadeurs. Ces ambassadeurs vont représenter l'État ainsi que le gouvernement et leur président. C'est le président qui devait être là, mais ne pouvant pas être partout, il envoie des ambassadeurs. Jésus a vécu 33 ans, il est mort, il a été ressuscité après son ensevelissement le troisième jour, il est monté au ciel et il est au ciel. Et il nous a mandatés, nommés comme ambassadeurs. Si je suis femme d'affaires, je suis ambassadeur de Christ. C'est lui qui devait vendre ses watts. Mais il m'envoie pour que je vende les watts à sa place. Si je suis professeur d'université, je suis ambassadeur. Si je suis pasteur, prédicateur de l'Évangile, c'est ce que Jésus devait faire. Je suis donc ambassadeur. Donc, je ne fais pas de moi-même. Et personne ne fait de lui-même. Nous sommes des ambassadeurs. C'est la première fonction. Et cette fonction est attribuée à tous ceux qui croient. D'où le chiffre 70. Pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons parlé de deux choses que le Seigneur a dit aux 70. La première chose, au verset 2 du chapitre 10, il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » les 70 qui ont accepté de partir, le Seigneur Jésus leur donne une responsabilité de prier pour que d'autres se lèvent et partent aussi, comprennent qu'ils sont ambassadeurs. En fait, il ne demande pas à toute l'Église de prier pour que se lèvent les ambassadeurs, il demande à tous ceux qui comprennent qu'ils sont ambassadeurs de prier. Pourquoi? Parce que ceux qui comprennent qu'ils sont ambassadeurs réalisent facilement qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris cette fonction-là. Il y a beaucoup qui viennent à l'église juste pour prier et partir. Et quand ils partent, ils sont libres d'être ce qu'ils veulent. Et beaucoup viennent simplement parce qu'ils ont des besoins personnels et une fois ces besoins partis, ils partent. Ils s'éloignent même du Seigneur. Mais ceux qui comprennent qu'ils sont ambassadeurs, ils ont la charge de prier pour que s'élèvent de nouveaux ambassadeurs. Pour que l'intelligence de plusieurs s'ouvre et que chacun comprenne que ce n'est pas destiné à une petite catégorie, mais c'est pour nous tous. Donc, la responsabilité qu'ils ont de prier. Encore une fois, ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas prier. C'est pour dire que cela bouscule un peu, n'est-ce pas, notre pensée, nos méthodes de prière et de faire où nous nous asseyons, nous prions, Seigneur, nous voulons que se lèvent des hommes et des femmes qui vont travailler pour toi. Et nous-mêmes, nous ne faisons rien. Ne peuvent prier que ceux qui sont déjà impliqués. Et pourquoi c'est eux? Eh bien, parce que, selon Luc 10, la fonction d'ambassadeur est dangereuse. Ambassadeur pour Christ. Ambassadeur du monde, c'est pas très dangereux. C'est même bien. Mais pour Christ, c'est dangereux. Le premier danger, c'est qu'il leur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est que ceux qui sont quelque part et qui sont conscients qu'ils représentent Christ, ils sont entourés de loups. Ils sont entourés de loups. Ça veut dire qu'ils doivent faire très attention. Très attention. Est-ce que vous savez cela? Que juste autour de vous, là, vous pouvez être dévorés. Et c'est pourquoi, parfois, quand j'entends certains chrétiens parler, ça me fait trembler de peur. Parce qu'ils parlent de tout partout. Et justement, vous savez ce qui se passe? Les chrétiens, par exemple, de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, ils parlent du mal de leur église n'importe où. Et les loups saisissent ces choses-là. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Les choses que vous racontez sur l'église, il y a beaucoup de faussetés. C'est ça qui est arrivé aux oreilles des autorités de ce pays. Et ils ont cru à tous ces bobards. Maintenant, imaginez tout ce que les gens racontent là. Ça arrive aux oreilles du ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il peut faire de cette église? Donc, c'est une association des bandits. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais c'est pour cette raison, quand nous savons que nous sommes des ambassadeurs, nous devons faire très attention, parce que nous sommes au milieu des loups. Mais curieusement, les chrétiens sont libres, ils parlent, ils parlent. Alors quelqu'un, le loup, prend ce que tu as dit. Peut-être que tu l'as dit parce que tu détestes la personne, tout simplement. Mais tu as grandi, tu as ajouté, tu as, etc., etc., et le loup raconte de proche en proche, cette personne devient en danger. Donc, ceux qui sont sur le territoire de leur représentation et qui sont conscients de cela, ils doivent prier parce qu'ils savent le danger qu'il y a là-dedans. Donc d'abord, ils sont comme des brebis au milieu des loups. Le deuxième danger, c'est que au verset 8. On peut les chasser. Venez pas les accepter et les chasser. Ça veut dire que ce n'est pas partout que vous serez reçus et applaudis. Il y a des milieux, quand vous arrivez, on vous chasse. Vous voyez, quelqu'un me racontait une histoire d'une dame qui a amené une autre dame pour qu'on prie pour elle. Et la personne qui voulait prier pour bien faire acheter deux Bibles, parce qu'il savait qu'il y avait deux dames qui venaient. Celle pour qui on devait prier et celle qui amenait la personne. Et alors, elle leur a donné à chacune une Bible. L'autre qui a amené, l'autre a refusé la Bible. En disant, ah non, moi, en tout cas, je vois pas pourquoi je dois prendre cette Bible. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai amené ma sœur. Mais moi, ça m'intéresse pas. Parce que le fait que vous devez être ambassadeur ne veut pas dire que partout vous serez accepté. Donc il y a le danger d'être rejeté et d'être chassé. Si tu as déjà été chassé une fois chez quelqu'un, dans une maison, dans une rue, au travail, simplement parce que tu as voulu représenter les intérêts de Dieu, tu peux avec efficacité prier pour le prochain ambassadeur. Le troisième danger, les ambassadeurs travaillent au milieu des serpents et des scorpions, et au milieu des puissances des ténèbres. Les serpents sont, je le disais dimanche passé, des êtres qui agissent en coulisses. Ils ne portent pas l'action en pleine vue. Sinon, vous fuirez. Si vraiment vous voyez un serpent venir, vous allez fuir. Tous ceux qui ont été mordus par les serpents, ils ne les ont pas vus pour pouvoir s'échapper. Donc, c'est très dangereux parce que l'ambassadeur, là où il est, il y a des serpents et des scorpions et le déploiement de la puissance du diable. Pour quel but? Pour le nuire. Alors, celui qui est déjà ambassadeur, il prie. Parce que plusieurs ayant été confrontés avec ces difficultés ont fui, ont laissé tomber. Il n'y a que eux qui peuvent prier pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans sa moisson. Le dimanche passé, nous avons lu le rapport de 70. Et c'est ça qui est réjouissant. Le rapport était un rapport rempli de joie. Ce n'était pas un rapport de frustration, ni de découragement, ni d'inquiétude ou d'échec. C'était un rapport de succès. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pour dire que, effectivement, malgré les apparences, malgré la réalité de ce danger, de ces trois dangers que je viens d'énumérer, le vrai ambassadeur, Dieu lui donnera de réussir sa mission. Il ne sera pas frustré, il ne sera pas déçu, il ne sera pas vaincu. Et c'est à eux que Jésus dit, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Un ambassadeur est appelé à réussir dans la vie parce que Dieu l'accompagne dans sa mission. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, il affirme cela très fort. 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 20, voici ce qu'il dit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez ce que Paul dit. Nous faisons donc ces fonctions-là d'ambassadeur, comme si Dieu était présent. C'est pourquoi il est écrit, Pierre dit, que celui qui parle soit comme annonçant quoi? Les oracles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est ambassadeur de Dieu. Quand il parle, c'est comme si c'était Dieu qui annonçait les oracles, lui-même. Et nous faisons donc une fonction d'ambassadeur. Ça, c'est notre première mission. Et cela, c'est ce que nous avons vu la semaine passée, c'était la révision. Nous avons vu qu'il y avait trois volets du ministère. Le premier volet, donc, c'est le volet d'être ambassadeur. Le deuxième volet, c'est ce que nous avons lu aujourd'hui, Luc chapitre 10, verset 25. Et les suivants. Nous sommes aussi des prochains recherchant des occasions pour démontrer la miséricorde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ambassadeur, c'est bien. Mais que, de grâce, nous n'ignorions pas notre prochain. Voyez, ce scribe, ce docteur de la loi, il a posé la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu vas aimer le Seigneur, mais tu vas aussi aimer le prochain. Alors, sa question au verset 29, ne vous surprend pas? Qui est le prochain? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que lui, il est seulement préoccupé à Dieu, avec Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Prière, il prie. Chanter, il chante. Tout ce qui concerne Dieu, il le fait. Mais quelle est sa relation avec les autres? Nulle. Il prie, certes. Qui est mon prochain? J'ignore le prochain. Moi, j'aime Dieu. Je connais Dieu. Je prie Dieu. J'adore Dieu. Je sers Dieu. Vous savez que dans cette histoire d'être pour Dieu, il y a à manger, à boire. Des femmes laissent leur maison sale parce qu'elles doivent aller prier Dieu. Mais tu as un prochain qui est ton mari et tes enfants. Des hommes sont injoignables. Veillées de prière à gauche, évangélisation à droite. Je me rappelle quand j'étais un jeune prédicateur. Je me marie. Et nous voilà en train de chasser les démons. 23 heures. Et je rentre. Et nous sommes partis le matin. À l'église, prière, chant, intercession. Et puis après, des cas, hop, on est parti. De maison, prière, chasser, minuit, je rentre. Je crois que ça a duré 2 semaines. Puis un jour, je reviens. Je trouve ma femme repassant les habits et les mettant dans sa valise. Bon, ben, moi, je suis heureux, hein, j'ai été chasser les démons, etc. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben, écoute, je suis en train de préparer ma valise, je m'en vais. Tu es un irresponsable. Tu épouses une femme que tu ne sais pas soigner, tu es toujours en train d'aller prêcher, prier. Vous savez, je dis, mais c'est pas pour quelle femme charnelle. Moi, j'ai été chasser les démons. Elle dit, ouais, ça va. Tu continues à chasser tes démons. Mais je m'en vais. Donc, je suis choqué d'abord, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, ça a été quelque chose qui m'a bousculé. Hein. Parce que tout n'est pas que Dieu. Et prière, le prochain. Le prochain. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Et justement, Jésus lui donne une parabole. Bon, un commentateur disait à partir du verset 30 que pour lui, ce n'est même pas une parabole, parce que quand c'est une parabole, on dit Jésus dit une parabole. Ce commentateur pense que c'était vraiment une histoire qui s'est passée entre la route de Jérusalem et Jéricho. C'est une histoire qui a été peut-être rapportée dans les journaux locaux. On en a parlé dans les faits divers de cet homme qui a été pris par des bandits, roué par terre et qu'on a dépouillé. Si vous lisez dans les faits divers du quotidien de votre ville, de votre quartier, vous allez trouver des choses comme ça. Quand c'est grand, hein, comme les Dutroux, l'autre, là, comment il s'appelle encore? Fourniret. Parce qu'il semblerait que, par rapport à Fourniret, Dutroux, c'est un garçon de cœur. Quand c'est grand comme ça, alors tout le monde est au courant. Mais il y a des choses que les autres ne connaissent pas. Liège, par exemple. Qui se passe ici à Bruxelles, qui se passe ici à Molenbeek, qui se passe dans votre quartier. Ça, c'est un fait divers, n'est-ce pas? Un homme a quitté Jérusalem pour Jéricho et rencontre des bandits, le rosse, le dépouille, le laisse à demi mort. Et ils partent avec leur butin. Un fait divers. Ça c'est pas une histoire d'église, ce n'est pas une histoire d'État, ce n'est pas une histoire qui intéresse le grand public, c'est un malheureux, un divers, poignardé, laissé à demi-mort. Voilà l'histoire que Jésus raconte pour nous amener à comprendre quel est notre rôle. Ambassadeur, oui c'est vrai, mais aussi prochain. La première personne qui passe par là, c'est un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est lui qui recevait les sacrifices d'Israël, qui les offrait pour Israël devant Dieu. C'est lui aussi qui avait pour mission d'expliquer la loi de Dieu. Nous pouvons le comparer au pasteur aujourd'hui. Nous pouvons le comparer aux différents bishops. Dans mon pays, il y a maintenant des archbishops, des patriarches, il y a toutes sortes de noms. Enfin, c'est tout ça. Tant mieux pour eux. Et il passe juste en ce moment-là sa Bible dans la main parce qu'il a une évangélisation à faire. Il y a un culte qu'il doit diriger. Mais il y a un malade là. Il dit, il passa outre. Ne le regarde même pas. Écoutez-moi. Si tu viens, même si à la chorale tu dois être là à 7h30, dimanche, mais il y a un prochain qui est là, couché par terre, il faut pas dire, non, 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 le frère Honoré va me chasser. Arrête-toi, je préfère qu'Honoré te chasse, mais que tu t'occupes d'abord du voisin. Combien de chrétiens, nous avons oublié les soins. Et puis après lui, c'est un lévite. Le lévite, on peut les comparer comme les gens qui jouent d'autres rôles dans l'église. C'est eux qui nettoyaient les plats, qui chantaient, qui étaient des portiers. Aujourd'hui, c'est comme les choristes, équipe de louanges, service d'accueil, service d'ordre, etc. C'est ça les lévites. Donc, les autres, en dehors des pasteurs. Mais c'est des gens qui ont des fonctions dans l'église, visibles. Il vient, il trouve, il passe aussi. Et puis voilà, un samaritain vient, il s'arrête. Alors, c'est très grave. Ce que Jésus dit. D'abord, le Samaritain, qui est-il? C'est un homme un peu douteux par rapport à sa foi. En fait, après le roi Salomon, le royaume d'Israël était coupé en deux. 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Les 10 tribus du nord s'appelaient le royaume d'Israël, avec comme capitale Samarie. Les 2 tribus du sud avaient comme capitale Jérusalem.
C'est là les deux tribus du sud où régnaient les enfants de David. Mais il se fait justement que les 10 tribus du nord ont violé la loi de Dieu, ils ont épousé des femmes étrangères. Donc, ils ont dilué la race d'Israël, ils sont restés toujours enfants d'Abraham, mais les gens du sud les considéraient comme n'étant pas ce qu'ils devaient être. C'est pour ça que quand Jésus partait de la Galilée à Judée, il devait traverser toute la Samarie, c'est-à-dire les 10 tribus. Et quand on l'a trouvé avec cette femme-là samaritaine au puits, et les disciples étaient étonnés, c'est pas possible, comment il peut parler avec une femme comme ça? C'est des gens peu considérés. Vous savez que dans nos églises, nous avons des gens qui sont super spirituels. Femmes de prière, hommes de prière, eux qui sont, ils sont toujours cultes, ils font tout, etc., etc. Il y a aussi des gens un peu douteux, n'est-ce pas, dans leur foi. Des chrétiens là, un peu obscurs. Si on me donne une attestation pour signer que je dois témoigner que c'est un chrétien fidèle et qui doit aller dans une autre église, dans un autre pays, j'hésite parce que je dis, je vais signer quoi? Samaritain. Malheureusement, c'est lui qui a été le prochain. Et il est dit de lui qu'il allait en voyage. Lisez bien le texte. Alors que le Lévite et le sacrificateur, eux, ils allaient à Jérusalem à côté. Lui, il allait en voyage. Il n'a pas tenu compte des distances, il n'a pas tenu compte de tout ce qu'il allait faire. Il s'est arrêté, il a donné du temps. Le but ici n'est pas de vous parler de cette parabole du bon samaritain. Non, c'est de vous parler de notre responsabilité comme un prochain. Donc, nous adorons Dieu, c'est vrai. Nous sommes ambassadeurs, là où nous sommes, c'est vrai. Les gens doivent, à partir de nous, recevoir Jésus-Christ, c'est vrai.
Le but, justement, c'est de secourir le prochain. Et vous savez, les chrétiens occidentaux, c'est ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, c'est de créer ces associations-là pour aider les gens qui ont des problèmes dans les pays sous-développés. Dans l'Église de Dieu, il y a le ministère de compassion. Et ce ministère est en train de faire un travail extraordinaire. Nous étions à San Antonio, ils ont fait un travail parmi les pauvres de San Antonio, parce qu'il y a des pauvres en Amérique. Et le gouverneur de la ville de San Antonio a appelé le numéro 1 de l'Église de Dieu pour dire « Nous n'allons pas nous rappeler de vos chants et de vos bibles et de vos prédications qui passaient à la télévision. Votre séjour ici a été marqué par ce que vous avez fait aux démunis de notre ville. Ça restera en nous. » Qu'est-ce que nous faisons, Nouvelle Jérusalem? Nous avons prié Dieu, ça fait des années, n'est-ce pas? Il y en a qui sont là depuis 1984-85. Qu'est-ce que nous faisons pour les déshérités, pour les nécessiteux et notre prochain? Nous sommes des ambassadeurs à Bruxelles, gloire à Dieu. Mais les blessés, les meurtris, les battus, les volés. Est-ce qu'il y a des hommes politiques parmi nous, dans cette assemblée, qui peuvent faire entendre notre voix, merci frère, pour que nous ayons ne fût-ce qu'un endroit pour accueillir les filles mères, les femmes battues, les gens, nous sommes une population d'immigrés, pour accueillir certaines personnes qui arrivent, qui n'ont pas d'adresse. Combien de fois les gens sont venus nous demander, je n'ai plus où passer la nuit. Et comme église, nous allons lui dire quoi? J'ai 6 enfants. Mes enfants sont serrés. Ils sont habitués à être 2-2 dans chaque chambre depuis qu'ils sont petits. Je ne peux pas en mettre une troisième, c'est difficile. Mais l'église, et plusieurs d'entre nous sont comme ça. Mais l'église peut avoir un local, une maison d'accueil pour que le prochain, nous puissions nous en occuper, quelle que soit sa race. Et justement, le prochain, il est ému de miséricorde et de compassion. Et vous allez vous rendre compte que le prochain ici, ce n'est pas question de religion, ce n'est pas question de race, ce n'est pas question de tribu ou de langue ou de provenance. C'est toute personne qui est dans le besoin et qui a besoin d'être secourue par l'Église. C'est notre deuxième rôle. Est-ce qu'on voulait créer les ONG dans notre pays? Que le but ne soit pas le calcul financier. Pour dire, je vais créer une ONG, ça va me rapporter autant. Non, c'est vraiment les nécessités. Oui, dernièrement, j'ai suivi un reportage d'une femme rwandaise. J'ai oublié, c'est une burundaise. J'ai oublié son nom.
Maggie.
Une certaine Maggie. Qui, comme travail, voilà comment elle exprime sa foi. Tous les gens que le génocide, le conflit entre Hutu et Tutsi blesse, tue, elle les récupère, les soigne, et le fait. Elle l'a fait d'abord avec ses propres moyens. Maintenant, elle est aidée, mais les besoins sont toujours là. Et elle le fait de tout son cœur. Elle n'est pas mariée, elle a consacré sa vie à cela. Dans ses dires, je pense qu'elle n'est même pas prête à se marier. Elle est tellement occupée à aider les autres. Elle s'oublie elle-même, notre prochain. Si notre ministère, notre foi et notre fonction comme ambassadeur n'est pas accompagné de ce ministère de compassion et de miséricorde envers le prochain, nous avons échoué. Le temps passe vite. Troisième volet. Nous sommes au verset 38.
Ambassadeur,
merci Seigneur.
Nous nous rappelons du prochain, nous avons la compassion.
Oh, gloire au Seigneur. Mais au centre de tout notre ministère, qu'il soit le ministère d'ambassadeur ou de compassion, doit être notre dévotion pour le Christ, pour être des adorateurs qui prenons le temps pour écouter sa parole et communier avec lui. Les adorateurs qui prenons le temps pour écouter sa parole et communier avec lui. C'est notre troisième volet. Si nous voulons être des chrétiens qui ont de l'équilibre, qui ne sont pas seulement des exaltés, alléluia, amen, etc. Oh, chantons, dansons. Vous savez, aux États-Unis, dans les assemblées générales, je suis souvent choqué, nous sommes souvent choqués, nous qui partons de Belgique. Je ne sais pas si nous avons raison, mais en tout cas, cela nous choque. C'est que quand vient le moment de la louange, de la célébration, les gens chantent, dansent, comme seuls les Américains savent le faire. Et dès que la parole commence, tous les gens qui dansaient là se mettent à sortir. Malheureusement, parfois, dans notre église, de telles choses arrivent. Les gens, soit dans la chorale ou l'équipe de louange, viennent juste pour chanter. Et quand ils ont terminé leur chant, vous les voyez descendre et sortir. Et les responsables les laissent continuer la fois prochaine pour faire la même chose. Alors bon, parfois, si c'était en Afrique, on les aurait exclus déjà. Mais ici, bon, on va te taxer de tous les noms. Vous savez qu'il y a des choses que nous ne faisons pas ici, non pas parce qu'on n'a pas le courage, mais c'est parce qu'on ne veut pas avoir, s'attirer des problèmes pour rien. Ambassadeur, on sait, on fait notre ministère, mais quand le temps de la parole arrive, en ce moment-là, les gens qui chantaient si bien sortent. Ils sont venus faire quoi? Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Hein? Équipe de louange. Vous avez bien dansé, c'est très bien. Surtout le culte de l'après-midi. Oh! Quand on met le tam-tam là avec nos chants africains, les gens dansent jusque par terre. Et après, sac, on sort.
parfois même nos musiciens.
Ils ont très bien joué. Et juste après, quand la parole commence, ils sortent aussi, ils se mettent là au fond. Qu'est-ce qui se passe là au fond? Est-ce que si les musiciens restent ici, ils ne vont pas suivre la parole ou quoi? Je ne comprends pas. Le troisième volet, au centre de tout notre ministère, c'est la dévotion de notre Christ. C'est-à-dire, prendre le temps pour écouter sa parole et communier avec lui. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie. Jésus est arrivé chez Madame Marthe. Et je crois que ce jour-là, il avait un message spécial à donner à cette famille. Et il a ouvert sa Bible. Il a commencé à lire dans Matthieu chapitre, dans Luc chapitre 10. Qu'est-ce qui se passe? Marthe, qui a bien accueilli le Seigneur, elle s'occupe de son ministère. Parce qu'elle travaille au cafétéria. Ce qui est important, ce n'est pas la parole, non, c'est que les sandwichs soient vendus. N'est-ce pas? Pendant la parole, on prépare les cassettes. La parole ne nous intéresse pas. Nous faisons notre ministère. Quand il y a culte ici, tu dis, nous sommes des rites, nous allons aller prier pour quelqu'un. Là, c'est une erreur. Quand la parole de Dieu passe ici, celui qui est ambassadeur et qui a le ministère de la compassion s'assoit pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de circuler. Ce n'est pas le moment de faire autre chose. Toutes les choses sont importantes. Mais quand c'est le moment d'écouter la parole, nous arrêtons tout. Cela témoigne notre adoration et notre respect pour notre Seigneur. Nous devons l'écouter. Si nous avons un ministère, faisons notre ministère. Mais quand c'est l'heure d'écouter la parole, nous arrêtons tout et nous courons à l'église. Vous savez qu'il y a eu un temps où on devait avertir même les gens du ministère de l'intercession pour dire non, arrêtez de prier pour les gens, montez maintenant au culte. Et on doit dire ça. Parce que non, on est en train de prier, on est en train d'intercéder. Oui, c'est vrai. C'est un bon ministère. Nous intercédons pour les gens. Mais quand l'heure du culte arrive, on arrête tout. On vient écouter le Seigneur. On vient adorer, écouter le Seigneur. Voici ce que Jésus a dit à Marthe. Marthe, verset 41. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il est vrai que lorsque une femme est à la cuisine, elle est très agitée. Il y en a même pour couper les oignons ici. Oh là là! Le couteau tombe, les fourchettes, les assiettes. Alors, il ne faut pas qu'un enfant passe à côté. Ça s'agite. C'est aussi la même chose quand on fait notre ministère. On s'agite. On s'inquiète. C'est pour cette raison. Le temps du repos du ministère, c'est le temps d'écouter le Seigneur. Cela nous repose. Nous ne savons pas ce qu'il va nous dire. Peut-être que ce sera des promesses qu'il va nous dire. Peut-être que ce sera une parole de paix qu'il va nous donner. Que nous apprenions à nous asseoir et écouter le Seigneur. Il dit, verset 42, une seule chose est nécessaire. Une seule. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ce que tu fais, le jour que tu vas quitter la Belgique, peut-être que tu ne le feras plus. Je connais des gens qui ne vivent que dans le rétroviseur, dans le passé. Vous savez, moi je chantais, moi je prêchais, moi j'étais. Et même parmi nous ici, il y avait qui étaient des pasteurs, l'assemblée, puis hop, c'est parti. La seule chose qui ne nous sera jamais ôté.
C'est la parole que nous recevons du Seigneur, que nous écoutons et qui entre dans notre cœur. Là, même la mort, nous entrons dans la tombe avec cette parole-là. Donc, ne donne pas priorité à ton ministère par rapport à la parole du Seigneur. C'est là qui va faire de nous des chrétiens qui ont un équilibre. La maladie de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a une dépression nerveuse parmi les fidèles. Les gens sont dans trop d'extrêmes, surtout dans les églises de Pentecôte et en particulier au milieu des Africains. On n'est plus dans la mesure de l'équilibre. On jeûne 40 jours, on prie 65 jours, on fait ceci, etc. Et puis, on oublie tout, quoi. Le monde entier n'existe plus. Mais Dieu, vraiment, pour servir Dieu, il faut être déséquilibré. Non. Si Dieu était déséquilibré, il n'allait pas créer ce monde compliqué, sophistiqué, pour que nous ayons de l'équilibre dans ce que nous faisons. Les trois volets du ministère doivent être en nous pleinement. Un, ambassadeur. Deux, prochain, avec le ministère de compassion. Trois, adorateur du Seigneur, qui prenons le temps de nous asseoir à côté du Seigneur et de l'écouter. Amen. Nous inclinons dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce ce dimanche pour ta parole. Notre prière, c'est que chacun de nous reçoive l'équilibre que nous donne ta parole. Notre prière aussi, c'est que ces trois volets du ministère nous soient totalement donnés. Nous refusons de nous agiter, de nous inquiéter pour toutes sortes de choses. Qu'au moment de ta parole, nous écoutions ta parole. Ta parole va nous stabiliser dans nos émotions, nos sentiments, et même dans notre ministère d'ambassadeur et d'homme de compassion. Pose une nouvelle dimension à l'Église de la Nouvelle Jérusalem. Que se créent au milieu de nous des ministères de compassion, des maisons d'accueil pour faire du bien aux uns et aux autres dans cette vie. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. Que ta parole reste en nous. Nous l'accueillons comme étant véritablement la parole de Dieu au nom de Jésus.